Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Démocratie en progrès pour ce 12e et dernière émission de l'année 2023. Nous avons décidé de nous pencher sur la situation de notre environnement à travers les défis liés au changement climatique et au développement. Pour ce faire, nous échangeons avec des experts, des consultants sur le thème « La Côte d'Ivoire face aux enjeux climatiques, aux impératifs de développement, quelles solutions ?» Pour développer ce thème, nous avons pour panélistes Monsieur Amor Lai Touré, il est membre de l'ONG Mighty Earth, il est conseiller principal. Monsieur Amara Karamoko, il est président de l'ONG Initiative pour le développement durable. Madame Sandy Kwame, elle est consultante en développement durable, énergie et finances climatiques. Docteur Étilé Raphaël, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, membre de l'ONG SOS Forêt, est avec nous. Également, docteur Oboué Durand, environnementaliste, coordonnateur national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Pour modérer ce débat, Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation et d'être présents pour le débat du thème, comme je le disais tantôt en introduction. La Côte d'Ivoire, face aux enjeux climatiques et aux impératifs de développement, quelles solutions ? Nous allons commencer avec vous sur l'état de lieu de la situation de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Docteur Étilé, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc sa forêt, ses cours d'eau, sa faune et sa flore ?
Pour aller droit au but concernant cette question, juste quelques chiffres pour donner une idée de l'état actuel de nos ressources. À l'indépendance, la Côte d'Ivoire avait 16 millions d'hectares. On estime à peu près 16 millions d'hectares. 60 ans après, il nous reste environ 3 millions. Ces estimations même datent encore de peut-être il y a 40 ans. Il nous reste à peu près 10% de couverts forestiers en Côte d'Ivoire. Les pessimistes même disent qu'il y en a moins que ça. Le ministère de l'Environnement qui a initié un travail d'inventaire forestier et faunique national depuis 2000-2001, on aura les vrais chiffres, mais la situation est qu'on ne couvre pas les 20% requis pour que la forêt joue son rôle écologique. Nous sommes à 10%. Les pessimistes disent que nous sommes à moins de 10%. Alors que la science dit que pour que le couvert forestier puisse jouer son rôle, il nous faut au minimum 20%. Ça, c'est pour ce qui concerne le couvert forestier. Mais dans ce couvert forestier, il y a les ressources. Donc, si la forêt disparaît, toutes les ressources de la forêt également disparaissent. Donc, on a des espèces qui n'existent plus. Et ça, c'est ce qui concerne le couvert forestier qu'on voit. Si on prend nos ressources en eau, c'est la même situation. Regardez toutes nos eaux. J'étais tout récemment à Boisso. Quand vous regardez la Bia, elle a changé carrément de couleur. Cela est dû à des activités qui sont menées sur le bassin. C'est pratiquement la même situation sur tous nos bassins principaux. Komoué, Bandama, Sassandra, Kavali. Donc, la situation n'est pas du tout reluisante.
D'accord, la situation n'est pas reluisante, nous dit docteur Étilé. Et sur cette préoccupation, est-ce qu'il y a d'autres réflexions qu'on peut pousser sur la situation de la forêt, de la faune et de la flore ? C'est vrai qu'on parlait de 16 millions, on est à 3 millions. Est-ce qu'il y a à craindre, ou bien c'est l'ordre normal des choses, bien entendu, parce qu'il faut aussi que l'homme se nourrisse, qu'il vive. Est-ce que c'est normal ou bien il faut craindre? Parce qu'on était à 16 millions, on est passé à 3 millions. Monsieur Amor Lai Touré.
Partager le constat de notre collègue, la situation est difficile. On ne voudrait pas verser dans le catastrophisme. Mais est-ce qu'il faut craindre? À votre question, il faut répondre oui. Mais une crainte qui invite à l'action, une crainte qui invite à la prise de conscience, et non pas une crainte qui va nous figer à ne rien faire. Aussi bien les forêts, les cours d'eau, et pas seulement du fait de l'agriculture d'ailleurs. On connaît le phénomène de l'agriculture qui contribue à 40% à la déforestation en Côte d'Ivoire, mais les cours d'eau également sont touchés. Récemment, on a vu beaucoup de vidéos publiées dans certaines régions de Côte d'Ivoire où des poissons morts flottaient à la surface de l'eau. Il faut incriminer pour les cours d'eau leur paillage. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire, comme dans certaines autres contrées, est un peu victime de sa richesse richesse naturelle. Voilà, donc nos cours d'eau sont contaminés par l'utilisation de mauvais produits comme du cyanure, l'arsenic, qui servent à la recherche de l'or. Heureusement, malheureusement pour nous, pratiquement toutes les régions de Côte d'Ivoire sont concernées. Ces orpailleurs illégaux qui surgissent de partout, dont une grande proportion vient des pays voisins, ils sont partout dans nos villages. Cela a complètement déstructuré, n'est-ce pas, la structure sociale, n'est-ce pas, dans nos villages. Beaucoup de gens vous le diront, ceux qui ont des vieux parents dans leur village, on ne trouve pratiquement plus personne pour s'occuper des vieilles personnes, parce que tout le monde court à la mine illégale, la ruée vers l'or, la fièvre de l'or, comme on peut l'appeler. Donc, sans verser dans le catastrophisme, nous sommes un pays quasiment sinistré du point de vue de l'état de l'environnement. Mais encore une fois, c'est une invite à la prise de conscience et à l'action.
Alors, quel rapport vous pouvez établir pour nos auditeurs et pour nous-mêmes entre cette dégradation et puis la situation du climat? Est-ce qu'il y a véritablement un rapport? Le fait qu'on coupe la forêt, le fait que la forêt diminue, est-ce qu'il y a un impact réel? Est-ce qu'il y a un lien? S'il y a un lien, c'est lequel? Je vais aller avec le docteur Durand.
Alors, ce que la plupart des personnes oublient, c'est cette capacité naturelle des forêts à séquestrer le carbone, en fait. Voilà, aujourd'hui, les scientifiques ont démontré que la cause principale des changements climatiques, c'est la forte émission des gaz à effet de serre. Or, la forêt constitue ce qu'on appelle un puits de carbone qui aide à séquestrer le carbone, surtout qui est émis à travers les activités humaines. Donc, plus nous perdons notre couverture forestière, nous réduisons la capacité des forêts à séquestrer le carbone. Donc c'est tout à fait naturel que nous puissions subir des effets des changements climatiques. Et naturellement, lorsque la forêt disparaît, le constat immédiat, c'est que les quantités de pluie ne sont plus aussi importantes. Ici même à Abidjan, vous pouvez être dans certaines communes, vous verrez qu'il pleut un peu plus fortement dans certaines communes que d'autres communes. Voilà, j'étais il y a 2 jours de cela à Abobo, mais pendant 3 heures de temps que j'ai passé dans la commune et dans une forêt urbaine, j'ai vu que pendant ces 3 heures de temps, il y a plu au moins 5 fois. Ce qui montre que la forêt est vraiment indispensable à la présence des pluies.
Alors, avec vous, M. Amara Karamoko, sur la question du climat, et sur la question du changement climatique, on a vu que dans les différentes explications qui ont été données, on a vu la corrélation entre la dégradation de l'environnement et le changement du climat. On a dit que vous allez voir, par exemple, on constate que dans certaines zones ou certains quartiers d'Abidjan, il pleut plus que d'autres. Mais nous, on va dire aujourd'hui, cette année 2023, qu'il pleut beaucoup à Abidjan dans tous les quartiers. Donc, est-ce que ce n'est pas parfois contradictoire? Parce qu'on nous dit, quand c'est détruit, il n'y a pas de pluie. Mais cette année 2023, vraiment, il y a de la pluie. Du coup, est-ce qu'il faut croire à ce que vous dites réellement?
D'accord, merci pour la question. Ce que nous pouvons dire sur cette question, c'est que le fait que nous ayons des pluies importantes est lié effectivement au réchauffement climatique. Vous avez vu les effets des inondations pendant ces périodes pluvieuses-là, qui ont un impact directement sur la montée du niveau de la mer, qui est due à la fonte des glaces au niveau des pôles. Donc, si on ne peut pas distinguer, je veux dire, le changement climatique et donc les aspects de remontée des inondations en Côte d'Ivoire.
D'accord. Madame Sandy Kwame suit la même préoccupation. On a peur, on dit non, la forêt est détruite. Si la forêt est détruite, on sera en sécheresse. Mais on se rend compte que ces dernières années, il pleut beaucoup trop même. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, ces thèses qui consistent à nous dire, attention, la forêt a disparu, donc il y a des risques de sécheresse, de famine, quand on voit qu'il pleut beaucoup? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Ou bien comment on doit comprendre ça?
Déjà, il faut regarder à l'échelle globale et qu'à un endroit, on peut regarder la situation à Abidjan, qui peut être totalement différente de la situation au nord du pays ou dans un autre pays carrément. Alors, quand vous regardez, on se rappelle un peu aussi à l'école primaire, le cycle de l'eau, donc d'où vient la pluie, vous avez beaucoup de soleil qui vient taper sur la mer, qui crée de l'évaporation. Il a parlé tout à l'heure, M. Karamoko, de l'augmentation du niveau des mers. Donc, on est en présence d'un plus grand volume d'eau. On a plus de soleil, on a plus d'évaporation. Cette vapeur d'eau va se condenser et va redescendre sous forme de pluie. Mais c'est vraiment à l'échelle je veux dire planétaire, qu'il faut regarder la situation. Déjà, pour avoir des chiffres un peu plus précis sur l'impact, donc l'état des lieux du changement climatique, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable fait sortir un document qui s'appelle PNCC, donc Programme National de Lutte contre les Changements Climatiques, dans lequel les données chiffrées sont mentionnées. Je n'ai pas le dernier rapport, mais déjà dans celui de 2015-2020, il montrait que la température globale en Côte d'Ivoire avait augmenté entre 0,5 et 0,8 degrés Celsius. Qu'on avait un raccourcissement de la longueur des saisons de pluie. Je le reprends, on est vraiment à l'échelle du pays. C'est une moyenne allant de 10 à certains endroits jusqu'à 20 jours. On avait une baisse de la disponibilité des ressources en eau, que ce soit en eau de surface comme en eau souterraine. La disparition des mangroves avec les phénomènes d'érosion côtière qui sont accélérés, mais aussi et surtout un impact sur la santé. Parce qu'avec la venue de vents plus secs, on a des maladies comme la méningite qui se propagent. Donc là, tout le challenge, pour ce que je sais, c'était d'arriver à avoir ces informations, ces données sous forme digitale pour pouvoir justement faire le lien entre changement climatique et santé des populations.
Monsieur Amourlaye Touré, sur la même préoccupation développée par madame.
Votre question introduit très clairement la question du dérèglement climatique. Il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas d'opposition entre le fait de dire « mais voilà, il pleut plus oh, », vous dites que les forêts, et c'est vrai qu'ils sont de véritables usines à pluie, et n'est-ce pas, sont détruites. Il n'y a pas du tout de contradiction. C'est une question de répartition, comme madame l'a précisé. Vous pouvez avoir plus de pluie à un endroit où on ne s'attendait pas à tant de pluie, et pas du tout de pluie ailleurs, où on attendait quand même une bonne proportion de pluie. Et c'est ce dérèglement-là climatique qui impacte directement les saisons, la durée des saisons, les cultures, et qui peut avoir des conséquences aussi graves que le manque d'autonomie, pas d'autosuffisance alimentaire, ou alors une durée ou une force plus grande pour le soleil. Enfin, tous les éléments du climat sont ainsi déstructurés. Et bien entendu, le vivant à l'intérieur de ce climat-là a des impacts qui sont divers.
Alors, docteur, est-il sur la même préoccupation ?
Sur cette question, c'est vrai, le constat est là, il a plu abondamment cette année. Okay. Mais quand vous regardez cette abondante pluviométrie-là, c'est au niveau du littoral. Parce qu'il y a la mer et comme la collègue vient de développer, l'évaporation est plus importante sur ce secteur du pays. Mais il pleut abondamment dans le sud, mais dans les autres régions, il ne pleut pas de la même façon. Mais encore, ce qui est plus important, il faut y retenir, même quand il pleut, souvent, il pleut une quantité de pluie sur un court temps. Et c'est ce qui crée les problèmes d'inondation. L'autre problème qui se pose par rapport au changement climatique, qui est une réalité, c'est qu'il y a un décalage de la pluviométrie. On s'attend à la pluie à telle période, dans telle région, puis il n'y a pas de pluie. Donc, les calendriers culturels sont bouleversés. Les paysans ne se retrouvent plus. Moi, je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, à partir de mars-avril, les semis étaient mis à terre. Mais maintenant, quand nous partons au village, c'est juin, juillet qu'on commence à cultiver. Souvent même, les parents cultivent, ils plantent, ils sèment, et puis après, il n'y a pas d'eau. Donc, tout ce qui a été semé disparaît. Donc, effectivement, les changements dont nous parlons sont une réalité, même si, bon, on constate, pour ce qui concerne cette année 2023, qu'il y a eu des fortes pluies sur Abidjan et sa région.
Monsieur Amara Karamoko, l'impact donc de ces changements climatiques sur la nature, le climat, l'environnement, comment on peut voir ça, comment on peut le traduire?
C'est ça. Je pense que c'est important de rappeler ce que c'est que les changements climatiques. D'accord. Un changement climatique est une modification durable des paramètres statistiques du climat global avec ses différents climats régionaux dus à des processus d'abord intrinsèques à la Terre qu'on appelle processus naturel. Et ensuite, vous avez l'activité humaine qui constitue la principale cause des changements climatiques.
En d'autres termes, comment on peut dire ça de façon simple pour nos populations?
Oui, d'accord. Vous avez les phénomènes naturels. Quand on parle des phénomènes naturels, vous avez par exemple les éruptions volcaniques qui ont un effet important sur les changements climatiques. D'abord, les éruptions volcaniques ont pour tendance à mettre dans l'atmosphère du dioxyde de soufre. Ce dioxyde de soufre-là a pour conséquence de provoquer des pluies acides. Et ces pluies acides-là, une fois qu'elles tombent, elles sont des sources de dégradation d'abord du couvert végétal,
de la biodiversité, mais également de l'élément physique de l'environnement qui sont les habitats. Elles sont vraiment destructives. Alors, vous avez parlé des liens entre les changements climatiques et le développement. Mmh. Alors, nous, à notre niveau, on estime que le changement climatique est étroitement lié au développement, au bien-être humain. Si les changements climatiques ne sont pas maîtrisés, ils pourraient plonger des millions de personnes dans un état de pauvreté. Et donc, vous avez d'abord la menace pour les moyens de subsistance des populations. Vous avez un risque de pauvreté, vous avez l'insécurité alimentaire et vous avez l'augmentation des inégalités.
D'accord. Madame Sandy Comey, avant que je ne vienne à vous, je vais poser une question. On a dit que la Côte d'Ivoire, au début des indépendances, avait 16 millions de couverts forestiers. Et puis, les années des indépendances sont passées. Aujourd'hui, on estime qu'on est à moins de 3 millions. Hein? On est à moins de 3 millions. Alors, cette destruction, M. Amorlaï nous a dit que la Côte d'Ivoire, est généralement, cette destruction est due à l'agriculture. C'est-à-dire que le pays a des impératifs économiques, il faut développer, il faut nourrir sa population. Comment on peut arriver à coïncider les deux objectifs?
Déjà, il a parlé de 40% de destruction du couvert végétal dû à l'agriculture.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'agriculture. Il y a aussi toutes les infrastructures, toutes les routes, tous les habitats que l'on construit. On n'a pas le choix, il faut se développer, comme on dit. Mais c'est en cela qu'on parle de programme intégré. Les ministères ne peuvent plus et ne fonctionnent plus de façon aussi indépendante. Donc, vous avez un programme de construction de logements sociaux, très bien. Il doit être vu par le ministère de l'Environnement pour s'assurer que une aire de couvert végétal est prévue et que tout le sol n'est pas couvert de ciment parce que sinon il n'y a plus de percolation, donc vous ne pourrez plus alimenter la nappe phréatique. Voilà, c'est à ça qu'on doit arriver, à des concertations, plusieurs corps de métier pour ensemble regarder que c'est en ça la définition du développement durable. C'est vraiment prendre en compte toutes ces ressources-là, s'assurer que le développement économique n'empiète pas sur des aspects environnementaux où au final, c'est l'individu qui paye.
Alors, on va aller avec M. Durand. M. Durand, sur la préoccupation, comment arriver à concilier les deux objectifs à la fois de développement et de préservation donc, du climat, de la nature, de l'environnement? Comment on peut le faire?
Alors pour moi, il est possible de concilier cela, développement et protection de la couverture forestière. Alors la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a la promotion de l'agroforesterie, par exemple. Voilà, donc qui est une technique culturelle qui consiste à pratiquer de l'agriculture tout en n'abattant pas les arbres que nous connaissons. Voilà, et donc ça nous appelle désormais à revoir notre mode culturel. Quand on va au village pour faire, par exemple, un champ d'igname et tout ça là, faut défricher, après faut mettre le feu, tout ça. Et même ça va au-delà de la superficie qu'on a prévue pour faire notre champ et ça va dévaster encore des superficies importantes de forêt. Donc, c'est possible vraiment d'améliorer les techniques culturelles tout en conciliant notre agriculture et en préservant la forêt. L'autre chose, l'un des facteurs qui détruit la forêt, c'est aussi l'urbanisation. Voilà. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire doit valoriser l'urbanisation verticale.
C'est-à-dire?
C'est dit qu'il faut construire en hauteur aujourd'hui, parce que la population augmente. Il faut construire des immeubles, des étages et tout ça, et permettre aux populations de pouvoir habiter les étages. Parce qu'il y a certains, par exemple, qui sont en train de penser déjà comment on peut utiliser une partie de la forêt du Banco pour pouvoir faire l'urbanisation. Non, on a encore de l'espace. On peut toujours construire, mais en hauteur. Hein, des R+1, R+2, R+3, mais vraiment des duplex qui occupent beaucoup d'espace, c'est bien, mais faisons attention parce que désormais, on n'a plus suffisamment d'espace pour pouvoir construire. Donc, faisons la promotion de l'urbanisation verticale. Récemment, j'étais dans un village au niveau de Vitré 2, mais lorsqu'on arrive, il y a des programmes immobiliers aujourd'hui qui font que les gens dévastent les mangroves. Quand vous arrivez dans des ménages, vous allez voir les pieds de palétuvier un peu partout dans les ménages. Bon, les ménages, eux, ils vont utiliser le bois qui a été déjà abattu. Mais quand on s'en rend compte, quand on leur demande, ils disent non, il y a un programme immobilier là. Quand ils arrivent, ils vont dévaster tout ce qu'ils trouvent sur leur truc. Or, les mangroves sont aujourd'hui menacées au niveau international, mais aussi au niveau national. Donc, il faut vraiment faire attention aussi.
Alors, les mangroves, qu'est-ce que ça apporte?
Alors, c'est une forme de forêt qu'on trouve sur le littoral et ça permet, c'est la maternité en fait des espèces aquatiques. Poissons, écrevisses et autres, tout ça, ils viennent se reproduire là avant de retourner vraiment dans la lagune et même aussi dans la mer.
Madame Sandy Kwame, vous voulez ajouter quelque chose sur cette conciliation entre les objectifs de développement et la préservation du climat, de l'environnement?
Oui, il a parlé donc des techniques au niveau de l'agriculture, mais les grands incriminés ici, on parle des industriels. Il y a aussi cette transition énergétique à mener, cette transition vers des technologies plus propres et moins émettrices de gaz à effet de serre ou de CO2. Et c'est possible justement, parce que avec les changements climatiques, la prise de conscience mondiale, l'aide au financement actuellement est déclinée sous trois axes. Il y a les ressources financières que l'on connaît, il y a la formation ou l'assistance technique pour des programmes concrets, mais il y a aussi les technologies propres. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut avoir accès à des technologies qui étaient brevetées, donc on peut continuer à mener notre développement, mais en ne commettant pas les mêmes erreurs que celle des pays, on va dire, historiquement pollueurs. Donc c'est là l'opportunité à saisir au niveau de l'industrialisation pour ne pas justement que le climat soit vu comme un frein vers cette décarbonisation.
Monsieur Amourlaï Touré, vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture qui prenait suffisamment de place, qui avait des impacts négatifs, hein, on va dire, sur le climat. Aujourd'hui, quand on regarde les rangs de la Côte d'Ivoire, notamment dans les spéculations, on va dire, d'importation, la Côte d'Ivoire est première dans beaucoup de spéculations, hein, le palmier, cacao, café, anacarde, palmier à huile. EVA, la Côte d'Ivoire a un positionnement très très fort, ce qui veut dire que le pays est véritablement un pays agricole où il y a beaucoup d'actions dans ce domaine. Est-ce que on peut rattraper les choses objectivement? Est-ce que vous pensez, si la Côte d'Ivoire doit maintenir ce rang de premier partout dans ses produits de spéculation, est-ce qu'elle peut se faire l'économie de ne pas produire plus puisque la population mondiale augmente et les besoins augmentent?
Merci, M. Diakité. Avant de parler de l'agriculture, que nous critiquons beaucoup, je voudrais dire un mot sur l'urbanisation galopante dont les collègues ont parlé tout à l'heure. Parce que dans nos salons climatisés, dans les villes, parfois, on remet tout sur l'agriculture. Quand on dit agriculture dans nos pays, on pense plus à la zone rurale. Mais nous ne sommes pas vertueux du tout. Nous qui sommes ici à Abidjan, nous savons très bien qu'il y a quelques années seulement, il y avait un peu de forêt entre Abidjan et Anyama, entre Abidjan et Bengerville. Oui. Et puis entre les autres, Yopougon à Abidjan, et Adjami, Yopougon et Adjami, entre Abidjan, Vridi, Port-Boué et Bassam. Nous construisons partout. Nous ne laissons aucun espace vert. Nous mettons du béton partout. C'est des centaines de litres qu'un mètre carré de forêt véritable engloutit quand il y a des orages en temps normal, quand c'est une vraie forêt. Mais le béton, c'est combien de mètres cubes? C'est zéro. Et après, on s'étonne qu'il y ait des inondations avec des rues fameuses maintenant, les rues ministres et autres. Même quand il y a déjà des semblants de forêt avec des cultures de rente comme l'EVA, on le voit ici autour de nous, les gens coupent systématiquement tout. En attendant peut-être de faire une enquête aussi à des éléments avec les collègues, je me suis renseigné un peu. On me dit que sur le papier, tout est bien pensé. Que tous ces projets qui sont en train d'être faits, il y a des espaces verts qui sont prévus. Mais ceux même qui sont chargés de prévoir ces espaces verts et de les gérer sont ceux après qui viennent pour les utiliser encore pour construire. Donc, nous ne sommes pas plus consciencieux, plus vertueux que nos parents qui sont dans les zones rurales. C'est un cri d'alarme qu'on lance. Il faut que les choses changent. On a du béton partout. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, l'agriculture, on l'a dit, contribue à 40% à la déforestation en Côte d'Ivoire. Mais là encore, il faut faire le distinguo. Nous sommes passés, il y a des décennies, d'une agriculture de subsistance qui est un mariage plutôt harmonieux avec le développement, avec les communautés, avec la préservation des espèces et la biodiversité. Malheureusement, ou heureusement aussi, il faut voir les deux, hein, c'est pas noir complètement, les cultures de rente dont la Côte d'Ivoire est premier producteur, vous l'avez dit. On a le cacao, bien entendu, le café, on occupe une rentrée respectable, on a l'anacarde qui est aujourd'hui la culture galopante qu'on voit partout, mais c'est-à-dire que ce ne sont plus une agriculture de subsistance. Nous cherchons à produire plus pour des marchés qui ne sont pas, voilà, des marchés locaux. Combien de café, de cacao nous consommons ici? Le chocolat reste une denrée de luxe en Côte d'Ivoire. Et si ça rapporte de l'argent, et ça ne nous rapporte pas autant d'argent que les autres, sur les 130 milliards de dollars du chocolat annuellement, c'est à peine 5 à 6 % qui arrivent à nos paysans. Voilà. Si ce sont plus de 70 milliards de francs pour l'anacarde, combien de gens consomment régulièrement ici des noix de cajou, n'est-ce pas? Juste pour donner un exemple. Et c'est valable pour le café partout. C'est quand nous voyageons à l'extérieur que nous voyons comment le café est consommé, même si de plus en plus ça rentre dans nos habitudes. Donc ici, il y a la possibilité de se développer en faisant attention à la nature, en faisant attention à l'environnement, au climat. C'est cet environnement-là qui nous porte. Nous, les hommes, nous sommes une espèce animale comme les autres. Une espèce évoluée, une espèce qui est, n'est-ce pas, au sommet de la chaîne alimentaire, c'est vrai. Mais nous sommes une espèce animale. Et il ne faut pas oublier que nous devons cohabiter harmonieusement avec notre environnement naturel. Et c'est là qu'on parle de durabilité. Si nous-mêmes, nous voulons durer, il est extrêmement important. Parce que quand nous détruisons, n'est-ce pas, l'environnement, cela impacte tout ce qui se passe dans l'espace. On oublie qu'on est dans une petite bulle, comme un œuf. Quand il est bien protégé, le poussin peut se développer à l'intérieur ou peu importe l'espèce qui est à l'intérieur. Mais lorsqu'il y a le moindre petit trou, même fait avec une aiguille, c'est fini, avant que le développement arrive à son terme. Donc il faut vraiment prendre conscience que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres et que nous devons laisser également la Terre abriter les autres espèces et nous-mêmes si nous voulons nous développer durablement. Et il y a un aspect important qu'on n'a pas encore évolué ici, c'est également, n'est-ce pas, les océans. La Terre, quand on dit c'est la planète bleue vue de l'espace, c'est parce que la Terre ferme ne constitue qu'une très, très, très petite partie. C'est les océans, les eaux qui donnent la couleur bleue à la Terre. Et malheureusement, n'est-ce pas, la majorité de la surface de la Terre également est attaquée. Certains parlent même du sixième continent parce qu'il y a des quantités inimaginables de plastique qui flottent, qui emprisonnent le vivant qui est dans l'océan. Et n'est-ce pas, à la fois la faune, la flore. Avant même de découvrir les océans, le tréfonds des océans, on est en train de détruire tout ça. Il y en a même qui disent qu'il y a peut-être même des espèces aquatiques humaines qu'on ne sait pas. On ne sait quasiment rien encore des tréfonds de l'océan. Et on est déjà en train de détruire cela.
D'accord. Merci beaucoup, M. Amorlaï Touré, pour votre cri de cœur. Mais ma question reste toujours posée, parce que la Côte d'Ivoire est engagée, comme on l'a dit, dans un processus de développement en investissant dans l'agriculture notamment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Face à des reconnaître, comme on dit, le bouchon est tiré, la situation existe, les pays sont producteurs, produisent énormément de tonnes de café, de cacao, d'EVA, d'anacarde. Comment on peut faire? C'est vrai qu'on a posé les impératifs du climat, mais il y a aussi la survie de l'espèce humaine qui passe par beaucoup d'éléments. Comment on peut faire? Comment on peut, selon vous, quelle doit être la solution? Est-ce qu'on doit arrêter ces cultures de rente? Changer, aller vers d'autres cultures, ou bien est-ce que on doit changer nos pratiques? Si oui, comment? Monsieur Etilé, docteur Etilé, vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a quelques années, c'était un slogan, le développement de la Côte d'Ivoire est basé sur l'agriculture. C'est une réalité. L'agriculture contribue à peu près 21% du PIB, Côte d'Ivoire, le produit intérieur brut. Les produits de l'agriculture constituent 75% des recettes d'exploitation de la Côte d'Ivoire et l'agriculture occupe environ la moitié de la population active. Donc pendant longtemps, on va rester dans cette activité et ça nous permet d'avoir toutes ces ressources-là pour notre développement. Mais malheureusement aussi, il y a le changement climatique et ses conséquences auxquelles nous faisons face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux axes qui sont développés. C'est qu'il faut pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Et ensuite, il faut essayer de réduire les gaz à effet de serre que nous produisons.
C'est quoi les gaz à effet de serre?
Alors, naturellement, il y a des gaz qui existent dans l'atmosphère. Et ces gaz-là permettent de filtrer les rayons solaires pour ne laisser passer que certains rayons qui contribuent au développement de la vie sur la Terre. Parallèlement, ces gaz-là permettent de réchauffer le climat naturellement. Ça, c'est ce qui se passait jusqu'à l'ère industrialisation. S'il n'y avait pas eu ces gaz, la température moyenne de la Terre a été estimée à moins 16 degrés Celsius. Mais grâce à l'existence de ces gaz-là, constitués principalement de dioxyde de carbone et de méthane, nous sommes à une température moyenne de 15 degrés Celsius, donc qui permet l'explosion de la vie sur Terre. Mais ce qui est arrivé, c'est que depuis l'ère industrielle jusqu'à nos jours, on a contribué à accélérer l'accumulation de ces gaz-là dans l'atmosphère. Et donc, le fait que ces gaz-là s'accumulent dans l'atmosphère contribue à réchauffer plus rapidement la planète Terre. À titre d'exemple, depuis l'ère glaciaire, qui date de depuis 10 000 ans, il y a eu un réchauffement climatique de à peu près 5% jusqu'à l'ère industrielle. Mais de l'ère industrielle jusqu'à, on estime, dans les années 2100, donc en 200 ans, on va avoir un réchauffement de même 5%. Si on ne fait rien, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on s'adapte à la réalité et puis on prenne des mesures pour corriger. Alors, la Côte d'Ivoire a arrêté des mesures. On a, à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28%. 8% de réduction est liée à l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'agriculture, puisque c'est notre principale activité qui contribue donc au réchauffement climatique? Le collègue a développé la technique de l'agroforesterie. Par le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On coupe la forêt, on brûle, on laboure, on plante. Mais il a été clairement démontré dans d'autres lieux, et pratiquement à côté de nous, au Ghana, que la pratique, par exemple, de la cacao culture peut se faire sous bois. Ça donne de bons rendements. Et donc, de plus en plus, on sensibilise les paysans qui donc mènent cette activité-là pour ne plus abandonner l'ancienne pratique qui consistait à tout couper et puis ensuite de planter les vergers, mais de plutôt planter sous bois. Ou alors, ceux qui ont été déjà coupés là, il faut les restaurer. Donc, on fait ce qu'on appelle l'agroforesterie, on donne des plants. Ça, c'est ce que nous faisons. Mais tout à l'heure, je disais que nous estimons à peu près 10% du couvert végétal restant en Côte d'Ivoire. Ces 10%-là se répartissent à des aires protégées, gérées par l'OIPR et à des forêts classées. Donc, il faut d'abord stabiliser la destruction de ces aires restantes. Et nous, par exemple, à l'ONG SOS Forêt, nous collaborons avec l'OIPR pour sensibiliser les communautés, pour leur faire comprendre que si on continue de pratiquer nos activités comme nous l'avons fait jusqu'à présent, on va droit dans le mur. Donc, par exemple, au niveau du parc national d'Azaï, à travers un projet que nous avons initié depuis 2021, nous avons accompagné l'OIPR pour sensibiliser les communautés et pour leur faire changer de pratique culturelle.
D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Monsieur Durand, ensuite, la même préoccupation, on a vu qu'on a suggéré qu'il faut changer, vous-même vous l'avez dit, il faut changer de pratique agricole. Monsieur Amourlaï aussi disait qu'il faut intégrer certains protocoles dans notre façon de nous comporter et de cultiver la terre. Au-delà de tout ça, c'est qu'on nous dit souvent aussi que bon, l'Afrique elle-même, par rapport à cette menace, ce n'est pas trop important. L'Afrique, autour de 4%, selon ce que j'ai cru lire. Si vous émettez moins, je suppose qu'il y a moins de risques pour vous. Ou bien ce n'est pas comme ça qu'on doit comprendre ça. On émet moins. Est-ce qu'on est aussi exposé que les autres qui émettent beaucoup plus? Si oui, si on est beaucoup exposé, est-ce que les mesures que nous devons prendre sont les mesures aussi que les autres doivent appliquer?
Merci beaucoup, M. Ben. Alors, il faut dire que la particularité de la crise climatique, c'est que les effets sont globaux, en fait. Non, il n'y a pas de frontières. Voilà. Nous pouvons subir, comme la Côte d'Ivoire subit actuellement, un crucial problème de l'érosion côtière avec la montée des eaux de mer actuellement. Mais les effets sont émis depuis longtemps. Voilà. Quand on lit les documents scientifiques, on nous prévoit que la fonte de la masse glaciale va augmenter le niveau des mers. Donc, on s'est dit que certainement, c'est de ça que nous sommes en train de subir actuellement. Voilà. Mais c'est vrai que l'Afrique, lorsque on met ensemble tous les pays africains, c'est environ 4% d'émissions de gaz à effet de serre que nous produisons. Mais pas pour dire que nous sommes moins exposés. L'Afrique est le continent, comme on peut le dire, est le continent le plus vulnérable parce que nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas la technologie et nous n'avons pas ce qu'il faut pour nous adapter aux effets des changements climatiques. Les pays développés, ils sont les plus pollueurs, mais ils ont la technologie, ils ont les moyens pour pouvoir mieux s'adapter en cas de manifestation d'aléas climatiques. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais dire.
Alors, je vais donner la parole à M. Amara Karamoko, qui parlait très souvent de la transition énergétique. Ça, c'est une des formules que vous aimez bien utiliser dans le cadre donc, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Vous dites qu'il faut revoir les sources d'énergie qu'on utilise dans la vie au quotidien pour avoir un mieux-être. Alors, cette transition énergétique, comment on doit comprendre? De quoi il s'agit clairement? Quoi va remplacer quoi?
D'accord, ok. D'abord, il faut savoir que la transition énergétique, il s'agit d'utiliser des ressources énergétiques alternatives aux ressources utilisées, qui sont des ressources pétrolières, et donc qui sont sources d'émissions de gaz à effet de serre, comme mes prédécesseurs l'ont signifié. Donc, il s'agit d'employer un mix énergétique avec donc des ressources naturelles. Vous savez que, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a une bonne saison qui nous permet d'avoir du soleil. Donc, on peut produire donc de l'énergie à partir des énergies solaires. Vous avez le réseau hydraulique qui nous permet aussi de fournir 60% de notre énergie aujourd'hui. Donc, il s'agit en fait de mettre une politique de développement durable. Je pense que tout à l'heure, vous avez posé une question de savoir l'intégration de l'environnement dans les politiques de développement. Vous savez, je pense que dans les années avant l'ère industrialisation, on avait le développement économique qui était appréhendé comme une croissance économique, c'est-à-dire la création de richesses. Et au fur et à mesure que nous avons avancé dans le temps, on a compris qu'effectivement, l'environnement était une partie intégrante de ce développement économique-là. Voilà pourquoi la notion de développement durable est apparue dans le rapport de Brundtland en 1987, où on définit le développement durable comme étant un mode de développement qui permet de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre les générations futures, les capacités des générations futures à pouvoir répondre à leurs propres besoins. Ce développement durable-là est basé donc sur trois piliers. Vous avez d'abord le pilier économique, qu'il s'agit de créer de la richesse. Intégré à cela, vous avez l'environnement, vous avez le volet social. C'est cet équilibre-là, en ces trois éléments-là, qui nous permet d'atteindre un développement durable. Alors, ce que nous nous proposons, en tant qu'ONG, nous avons essayé de mener la réflexion. Il faut protéger la biodiversité, c'est-à-dire la variété des espèces animales et végétales, et pour préserver les écosystèmes, épargner les espèces menacées ou en voie de disparition, intégrer donc les variétés anciennes ou rares, éviter surtout les produits OGM, qui sont des produits qui, effectivement, déstabilisent notre écosystème.
Les produits OGM, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, c'est quoi?
Si vous voulez, ce sont des...
génétiquement modifiés, mais
voilà, ça voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous utilisons des types de semences pour pouvoir améliorer notre production. Voilà, et donc... lorsque ces produits-là contiennent des OGM, elles sont très destructrices, même aussi peuvent avoir un impact sur la santé humaine. Au-delà de tous les aspects que nous avons cités, nous mettons une mention particulière. La Côte d'Ivoire aujourd'hui aspire à être un pays industrialisé. Et qui parle d'industrialisation, parle de régie. Ces régies-là ont un impact d'abord sur l'eau, l'air et également le sol. Alors, au niveau de ces régies-là, ce que nous proposons, nous pensons qu'il y a des solutions technologiques qui existent dans le traitement, dans la production. Il faut que les entités privées qui sont les premiers, acteurs du développement en Côte d'Ivoire, puissent initier effectivement des process de production qui sont verts, qui sont moins polluants, et ces solutions technologiques-là existent.
Madame Sandy Kwame, sur cette réflexion, quelle solution, bien entendu, pour pouvoir concilier donc, les défis climatiques aux enjeux de développement?
Il faut être réaliste. Tant qu'on va continuer à avoir des discours environnementalistes, je veux dire, aussi durs, on ne sera pas écouté des politiques, on ne sera pas écouté des industriels. Le 27 août 2023, on a fêté en Côte d'Ivoire le First Oil du champ Baleine. C'est le même pays qui dit « je signe à la COP, mais en même temps, c'est le même pays qui
se réjouit,
de cette découverte, bien sûr,
découverte importante
du champ pétrolier,
qui va impacter son économie, sa population.
On parle de local content, on parle de la création d'emplois.
Ouais.
Revenons à une analyse des causes profondes. Est-ce que le problème, c'est la découverte du champ, ou bien est-ce que le problème, c'est la réduction des pollutions? Si c'est le cas, on peut aller vers des technologies un peu plus propres.
Est-ce qu'on peut exploiter sans détruire?
Non, restons d'abord sur les énergies fossiles. L'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, il y a des technologies qui permettent d'empêcher justement ce dégazage à l'atmosphère. Donc, est-ce qu'on ne peut pas investir dedans? Est-ce qu'on ne peut pas, parallèlement à toutes ces actions-là, mettre des mesures incitatives pour justement encourager les industriels à aller vers des solutions technologiques propres? Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on va arriver à concilier réellement les deux choses. Parce que tant que vous venez dire à un industriel « tu pollues », on ne te finance pas ou bien ton activité est néfaste. Non, il faut lui donner à côté des alternatives et lui dire, on va te détaxer telle chose, on va te permettre, voilà, pour être plus compétitif, parce que ça coûte cher le verre. Donc, on va t'aider à réduire tes taxes à l'importation de tel ou tel produit. À ce moment-là, économiquement, l'équation devient intéressante. Il n'a pas de problème à vous écouter quand vous lui dites, réduis tes émissions, voilà.
D'accord. Monsieur Karamoko va rebondir puisqu'il a été interpellé.
D'accord. Je pense que je vais dans le même sens. Peut-être Madame Kwame ne m'a pas compris. J'ai demandé seulement de faire la promotion. D'abord, j'ai parlé de deux volets.
Mm-hmm.
Il y a la promotion d'abord du mix énergétique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos ressources pétrolières s'amenuisent. Alors, il faut avoir des alternatives à ces ressources, bien que nous allons les exploiter aujourd'hui, mais et demain. Alors, aujourd'hui, il est important de développer ces sources d'énergie-là qui sont propres et qui ont moins d'effet sur l'environnement. Pour ce qui est de l'existant, puisqu'on ne peut pas se départir des ressources que nous avons, il faut pouvoir produire, il faut pouvoir apporter des capitaux au pays. Je dis effectivement, il existe des procédés qui permettent d'éliminer le soufre, par exemple, dans le carburant. Il existe des procédés qui permettent de faire du filtrage des gaz qui sont émis dans l'atmosphère. Il existe également des procédés qui nous permettent de faire un nettoyage. Donc, au niveau pétrolier, je veux dire, le procédé de désulfuration qui permet d'éliminer le soufre et les eaux issues des rejets. Par exemple, dans les industries extractives ou dans les industries pétrolières, sont traités en amont de sorte à pouvoir avoir au minimum le seuil requis par le CIAPOL. Je n'ai pas ces données-là. Je pense qu'à d'autres séances, on pourra partager ces données-là avec vous.
Merci beaucoup. C'est bien compris. Monsieur Amorlaï, c'est vrai que ces décisions que vous dites doivent être consignées dans un protocole où tout le monde s'engage. C'est vrai qu'on ne va pas toujours dire que l'Afrique produit moins, donc elle a moins de responsabilités. Mais on se rend compte que les gens ne parlent pas d'une même voix. Parfois, vous avez ces pays occidentaux qui ont tous les instruments, parce que vous avez dit, ils ont la technologie, ils ont ceci. À un moment donné, on va vers cette politique et puis après, on fait marche arrière. On a vu que les centrales avaient été abandonnées et bientôt, tout le monde s'est remis dedans, on a vu. Bon, on nous dit le soleil, les plaques, ça peut aider, mais on se rend compte qu'aucun pays au monde n'exploite ça à 80%. C'est juste pour compléter ce qu'on a déjà, qui est l'ancienne manière de produire. Comment on peut changer les choses? Est-ce que véritablement, ces sources énergétiques de transition, vraiment, je vous regarde droit dans les yeux, soyons sincères, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est tenable pour des pays en voie de développement comme le nôtre? En termes de coûts, en termes de prix, est-ce que c'est tenable, objectivement? Monsieur Amorlaï.
Oui, déjà, on l'a dit, ces questions climatiques sont des questions globales. Il n'est pas question de dire, nous, on ne contribue que pour 4% à l'émission des gaz à effet de serre, donc laissez-nous nous développer. Ce n'est pas utile de reproduire des erreurs qui ont amené les autres dans le mur. Même si, avant la prise de conscience générale que nous avons aujourd'hui, avant que la menace se précise, comme c'est le cas aujourd'hui, ces populations d'Europe, puisque c'est d'elles qu'on s'agit, ces États européens, ont pu se développer. Donc, leur dit, mais vous avez utilisé le charbon pendant un siècle, vous vous êtes développé, il n'y a plus rien à construire chez vous, nous, on a tout à construire. C'était un discours qui pouvait peut-être, si on était au même niveau de développement, et puis si on était à une époque qui était différente. Aujourd'hui, c'est une question globale, et on le répète ici. C'est comme un organisme, on l'a dit, c'est comme un corps. Vous pouvez avoir un organe qui est peut-être à la limite superflu, comme l'ongle, mais quand il est malade, quand il y a une panarie, c'est tout le corps qui va avoir la fièvre. Aujourd'hui, la prise de conscience est telle que nous devons penser collectivement à nous sauver. Dans un autre contexte, bien entendu, mais ce que Martin Luther King disait, nous devons agir en personne consciente et nous sauver tous ensemble, ou alors périr tous ensemble comme des imbéciles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, non, on contribue moins, on pollue moins, donc on ne fait pas ça. Non, ce n'est pas possible, malheureusement.
Mais en termes de coût, parce qu'aujourd'hui, c'est démontré que ça coûte moins cher d'exploiter le pétrole.
Il faut développer des solutions globales. Les questions du crédit carbone. Et c'est là que, je ne sais pas si je vais même parler que mes collègues techniciens, parce que nous, en tant qu'organisation de campagne globale, nous sommes pour qu'il y ait une différente façon de prioriser. Voilà. Comme ils l'ont dit, il y a des solutions qui existent pour réduire notre impact, etc., etc. Développons d'abord, nous, ce que nous disons, n'est-ce pas, société civile, développons d'abord ces technologies, ces techniques-là. Quand elles seront bien assises, acceptées, et mises en œuvre, et puis bien monitoré par tout le monde, vous allez pouvoir produire plus. On ne peut pas dire on peut aller, on peut produire plus, on peut rechercher, etc., toucher les océans pour extraire des terres rares et autres. Parce que c'est ça les nouveaux défis. Et puis après, on trouvera les moyens de, nuancer, juguler les problèmes. Non. Trouvons d'abord les solutions et puis ensuite allons-y plus loin. C'est ça la question. Et en la matière, il faut le dire parce que je n'ai pas eu la chance de le dire, ceux qui en profitent le plus, ceux qui font le plus d'argent sont les premiers responsables. C'est à eux également d'être les acteurs qui sont sur la ligne de front. Et on parle ici des multinationales, des pays puissants qui viennent prendre les ressources chez nous en détruisant tout pour se développer. Et puis finalement, malheureusement, ce n'est pas juste, mais c'est l'Afrique, c'est ces pauvres pays-là, n'est-ce pas, qui subissent les conséquences négatives avec plus de gravité.
D'accord. Je vais donner la parole à Dr Durand sur cette même problématique-là. Comment on peut faire, gérer, concilier les coûts de production des nouvelles énergies ou les énergies de transition et puis la question de préservation du climat.
D'accord. Alors, il faut dire qu'il y a M.
Karamoko
qui disait tout à l'heure de promouvoir aussi le mix énergétique. Voilà. Lorsque nous prenons les nouvelles contributions déterminées au niveau national, les CDN de la Côte d'Ivoire, les mix énergétiques sont bien représentés là-dedans, à près de 40% même. Voilà. Donc, il y a le domaine de l'énergie solaire, il y a le domaine de la biomasse aussi qui est vraiment prévu qu'il faut développer. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ces nouvelles contributions déterminées au niveau national, le gouvernement de Côte d'Ivoire a revu à la hausse ses ambitions. Dans les premières CDN, c'était de 28,25%. Aujourd'hui, nous sommes à 30,41% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le gouvernement montre son engagement, en fait, à aller vers le mix énergétique. Donc, nous pensons que le gouvernement doit maintenant passer à l'acte, en fait.
Passer à l'acte, Madame Sandy,
justement, sur ces CDN, là, je vais prendre un peu le mauvais rôle. La grande inconnue, c'est le budget. C'est-à-dire, c'est vrai que maintenant, en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité pour les nouvelles constructions d'intégrer le solaire directement. Mais combien de banques en Côte d'Ivoire vous font un prêt solaire? Vous avez un CarPlan qui est fait pour votre voiture, vous avez un crédit consommation pour aller prendre des équipements. À quand est-ce qu'on passe justement à des prêts pour aider les personnes ou les entreprises à s'équiper? L'État a fait un très bel effort de réduire les taxes sur l'importation des panneaux, mais ça reste encore très insuffisant par rapport à l'ensemble du matériel qu'il faut importer pour, enfin, assembler, pour mettre cela en place. Il y a des banques de développement qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans cette transition énergétique en faisant des audits énergétiques et en finançant les actions pour réduire la consommation énergétique. D'accord ? Mais on n'est pas encore vraiment à la partie financement réel. Donc, les mesures incitatives doivent accompagner
plus fortes, plus marquées.
Les prises de décision pour encourager les gens parce que ça coûte excessivement cher. Et demander à quelqu'un de laisser la source conventionnelle d'énergie pour aller vers un investissement lourd, ça demande un peu d'effort quand même.
Docteur Aitilé, sur la préoccupation.
Je voulais dire qu'en plus donc, de la transition énergétique, il y a d'autres aspects qu'on peut développer déjà. On sait par exemple que les forêts donc, sont des puits de carbone. Donc déjà, c'est de contribuer à sauvegarder ce qui reste ou alors on fait de la restauration. Il y a un autre, tout à l'heure, docteur
Durand
parlait des mangroves qui ont été dégradées. Les mangroves captent 5 fois plus de carbone que la forêt conventionnelle. Mais on a tout détruit. Donc,
on peut replanter ?
Il faut, faut replanter et c'est possible, ça marche. Nous, au niveau de l'ONG SOS Forêt, nous avons mené des actions de replantation de mangroves au niveau de Tukuzu, Nguessamisadon, en tout cas dans le littoral. Mais il y a d'autres actions qu'on peut mener pour atténuer la destruction des mangroves. Nous avons au niveau donc, de ce secteur-là, vers le parc national Azaï, contribuer à sensibiliser les populations pour qu'ils changent de pratique. Là-bas, l'activité principale menée par les dames, les femmes, surtout sur le littoral, c'est la production de sel. Et cette production de sel se fait principalement en chauffant l'eau de mer à partir de bois de paltivier. C'est leur activité traditionnelle, on ne peut pas leur dire de ne pas mener cette activité-là. Mais il faut changer les techniques de production. On les a sensibilisés, par exemple, à produire toujours le sel à partir de l'eau de mer, mais en chauffant plutôt à partir de l'énergie solaire, tout simplement. Et ça marche très bien. Nous avons eu un financement du gouvernement allemand avec une autre ONG de l'Allemagne, NABU. Donc, ça marche bien. Bon, le problème que nous avons rencontré au niveau donc, de cette production à partir du soleil, c'est que avec le changement climatique, les pluies sont imprévues, ça arrive à tout temps.
D'accord.
Il y a d'autres aspects que nous contribuons, nous voulons développer. C'est par exemple, comme on a dit, utiliser donc les plateformes solaires comme source d'énergie pour chauffer. Et ça marche bien.
D'accord. Merci beaucoup à vous tous, hein, messieurs, pour votre présence sur notre plateau, parce que le temps qui nous est imparti est à terme. Donc, nous allons vous permettre de dire juste un mot de fin. Je vois M. Amorlaï. Alors, on va vous permettre de dire un mot de fin par rapport donc, à notre thématique aujourd'hui, qui était la Côte d'Ivoire face aux enjeux climatiques, aux impératifs de développement. Quelles solutions ?
Oui, merci. Je voulais juste dire ici qu'il est très important donc, de changer notre approche, n'est-ce pas, de tout ce qui constitue le climat et notre environnement. Tout investissement devrait pouvoir, déjà avant de commencer, intégrer la question de la durabilité. Et ça, c'est extrêmement important. Et que les multinationales en général, ceux qui font le plus de bénéfices, doivent pouvoir être également ceux qui sont à la ligne de front, qui doivent pouvoir également gérer cette question-là. Et c'est une des tâches essentielles de Mighty Earth. Si on prend le cacao qu'on connaît bien, par exemple, chaque année, avec d'autres partenaires, nous avons l'évaluation annuelle du chocolat que la Radio de la Paix connaît bien. Et tous ces grands chocolatiers extrêmement puissants, dont les chiffres d'affaires s'élèvent en dizaines de milliards parfois de dollars, et n'est-ce pas, sont amenés à justifier, hein, n'est-ce pas, d'où est-ce que, où est-ce qu'elles prennent leur cacao et où est-ce qu'elles l'amènent, comment est-ce que c'est traité, comment est-ce que les lieux d'exploitation se comportent, les populations, leurs revenus et tout ça. Donc la traçabilité est extrêmement importante. Donc si bon, j'ai un message de fin à donner, c'est qu'on ne peut pas aller pour le tout richesse, développement, production. Dès que l'idée apparaît de produire plus, il faut également intégrer l'idée de la durabilité. C'est à cette condition seulement que nous pourrons sauver le climat et nous sauver avec.
Merci beaucoup, Madame Kwame. Votre mot de fin ?
Déjà, je voudrais rassurer mon prédécesseur que des initiatives au niveau de la finance sont en train d'être prises. Donc, avec la BAD, la FAC, qui est une alliance financière donc, contre les changements climatiques, depuis cette année, une très forte sensibilisation a commencé avec tous les acteurs du système financier sur le continent pour intégrer déjà dans les prises de décision, l'analyse du risque, mais aussi aider justement les porteurs de projets ou de programmes à intégrer la question d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est beaucoup de changements de paradigme, beaucoup de débats, mais les choses sont en train d'être faites et on espère que les régulateurs, les banques centrales et autres vont emboîter le pas pour rendre la chose un peu plus contraignante pour que ça active le processus. Alors, comme mot de fin, je voudrais dire, c'est vrai que le problème, il est global, mais la réflexion, on l'a bien vu, reste locale, avec l'implication de tous les acteurs. Il faut vraiment une synergie de toutes les parties prenantes pour arriver à des solutions adaptées à nos contextes, à nos réalités socio-culturelles, économiques, pour qu'on arrive enfin à faire du développement durable. Mais dans développement durable, il y a d'abord développement. C'est la base de toute chose.
Merci beaucoup, amis auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez à l'écoute des programmes de Radio de la Paix. Vous étiez à l'espace Démocratie en progrès. Et dans le cadre de cette émission, nous avons débattu du thème « La Côte d'Ivoire face aux enjeux climatiques et aux impératifs de développement. Quelles solutions ?» J'étais en compagnie de monsieur Amourlaï Touré de l'ONG Mighty Earth, conseiller principal, de monsieur Amara Karamoko, président de l'ONG Initiative pour le Développement. J'étais également en compagnie de madame Sandy Kwame, elle est consultante en développement durable, énergie et finances climatiques, de docteur Etile Raphaël, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, membre de l'ONG SOS Forêt, de docteur Oboy Durand, environnementaliste, fondateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Radio de la Paix.
Ben Diakité.
Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la Paix.